Jenny pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble. Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir. Vous écoutez l'apérophonie, l'émission des bénévoles du collectif de Radio Campus Grenoble. On est ensemble pour passer un petit moment pour parler d'un événement qui a lieu 4 fois dans l'année.
Cinq fois.
Vous dépassez les trimestres, vous. Nous sommes ensemble pour parler du forum de l'événement qui se tiendra ce lundi le 14 octobre à 18h30 au Centre Théologique de Mélan. Et je reçois pour en parler la cheville ouvrière de cette organisation, Monsieur Pierre Bréchon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous êtes professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, que vous avez dirigé de 2002 à 2005, et vous êtes chercheur au laboratoire de sciences sociales PACTE. C'est bien
oui,
ça ?
C'est bien ça.
Alors, on va commencer par réexpliquer le principe de ce forum de l'événement, qu'il ne faudrait pas confondre avec un cours magistral ou avec un débat politique.
Oui, voilà, donc c'est un forum, c'est-à-dire que c'est pas une conférence. Il y a quand même deux intervenants chaque fois qui précisent certains enjeux de l'événement dont on parle. Mais après, il y a beaucoup de débats, c'est-à-dire que...
Oui, c'est ça, en fait. Il y a une organisation qui permet une interaction entre oui. les intervenants et les gens qui sont présents, voilà. voire même les gens qui sont en train de suivre l'événement via le net.
Oui, c'est en présentiel et en distanciel. C'est facile pour se brancher en distanciel. On peut trouver, si on va sur le site du Centre Théologique de Mélan, on trouve
le lien direct
le
pour
lien pour aller sur Zoom et pour écouter et éventuellement intervenir, même s'il faut un peu plus d'efforts pour intervenir en distanciel.
Qu'en présentiel, forcément.
Voilà. Et donc, en fait, c'est construit avec toujours trois sous-questions.
Mmh.
Sur chacune de ces sous-questions, ces dimensions de l'événement, on demande à nos intervenants de parler 5 minutes chacun. Donc, c'est pas long. Il faut que je sois le maître des horloges.
C'est ça, c'est vous qui surveillez pour
voilà,
qu'il dépasse pas.
Pour qu'il dépasse pas ou pas trop. Et donc, ensuite, on a environ 20 minutes d'échange avec les participants sur chacune des questions. Donc, et on garde le dernier quart d'heure pour choisir le thème suivant. Le forum suivant sera le 9 décembre.
Très bien. Et donc, ce lundi 14 octobre à 18h30 au CTM de Mélan, le thème qui a été choisi pour cette rentrée, c'est 2024, pourquoi ce blocage politique en France ?
Voilà, tout à fait. Donc, face aux événements de cet été, il nous a semblé que c'était le thème à privilégier plutôt que d'autres thèmes de l'actualité internationale ou nationale.
Alors, c'est vrai qu'on se connaît un peu, je vous ai déjà souvent interviewé. Et c'est assez rare que pour les forums de l'événement, le thème soit autour des questions politiques nationales. D'habitude, ça va plutôt vers les sujets internationaux.
Oui, c'est lié à notre public, c'est-à-dire que, puisque c'est eux qui choisissent en fin de forum, sauf le premier de l'année, parce que...
Il faut bien démarrer.
Oui, puis on veut pas choisir un thème six mois à l'avance.
Oui, c'est ça.
Donc, le premier de l'année, c'est l'équipe d'animation qui le choisit. Mais en effet, pendant l'année, c'est très rare qu'un sujet national émerge, soit en tête des votes, puisqu'on vote. C'est donc ça montre que notre public, au fond, estime souvent être relativement bien informé sur les questions nationales, mais est demandeur d'informations plus approfondies sur les questions internationales, ayant le sentiment probablement que les médias, que ce soit la télévision ou leur journal préféré,
oui,
ne leur donnent pas beaucoup d'informations internationales solides et fiables.
J'avoue, partager ce point de vue, moi je suis lecteur de la presse quotidienne, et j'avoue que la partie qui m'intéresse le plus, c'est celle qui traite des sujets qu'on maîtrise le moins, et donc ceux qui sont le plus éloignés géographiquement de nous, et que malheureusement, ça devient de plus en plus la portion congrue de l'information, et donc je comprends parfaitement le choix des gens qui viennent assister au forum de l'événement, de demander d'avoir l'avis d'experts sur des sujets plus lointains, quoi.
Oui, oui.
Alors, on va présenter les deux intervenants qui vont parler ce lundi 14 octobre à 18h30 au CTM de Meylan.
Donc, Simon Persicaud, qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Il est spécialiste des politiques d'environnement, d'écologie. Voilà, il est spécialiste des questions électorales.
Ça tombe bien.
Voilà, voilà. Et de l'évolution du système politique français.
Mmh.
Et Sonia Smerli, qui est aussi professeure de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, elle a fait ses études et passé une bonne partie de sa carrière en Allemagne, dont elle est originaire. Donc elle connaît bien la politique allemande, mais elle s'intéresse aussi évidemment beaucoup à la politique française. Et donc elle pourra donner un éclairage sur comment nos mœurs politiques françaises
sont perçues à l'étranger,
sont perçues depuis l'Allemagne. Et je pense qu'on n'est pas toujours perçu très sérieusement.
Bon, j'avoue que les derniers résultats des élections partielles en Allemagne ne donnent pas forcément non plus...
Oui, oui, tout à fait.
Je crois qu'il y a un échange.
Sur l'évolution des partis de droite radicale, on est aujourd'hui assez proche.
C'est ça.
Même si les Allemands ont commencé beaucoup plus tardivement que nous.
Oui, mais ils arrivent très fort.
Mais ils arrivent très fort.
Ils remontent leur handicap sur le sujet, c'est bien dommage. Et justement, donc, les trois questions qui vont être abordées ce lundi 14 à 18h30 au CTM de Meylan dans le cadre du forum de l'événement. Donc, le thème 2024, pourquoi ce blocage politique en France, vous l'avez découpé en trois questions qui vont être abordées par vos deux intervenants.
Oui, tout à fait. Donc, la première question, montée des extrêmes et tripartition du paysage politique. Alors, c'est peut-être un peu verbeux, mais on expliquera.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une spécificité du moment actuel, cette division en trois. Parce qu'on a longtemps sur une polarisation avec une gauche, une droite.
Oui.
Et d'un coup, on se retrouve avec un centre qui est quasiment au même niveau que
les deux
autres.
Ça n'a quand même pas été toujours le cas.
Hein. Oui, oui.
On a eu beaucoup de, sous la 3e et 4e République, on a eu beaucoup de multipartisme, de systèmes multipartisans.
Les radicaux.
C'est avec la 5e République que le paysage partisan s'est progressivement réduit. On a d'abord parlé d'un quadrille bipartisan, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que quatre grandes forces politiques, deux à droite et deux à gauche. Et puis, dans les années 80-90, on a parlé d'un système bipartisan imparfait.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il y avait, évidemment, il y avait toujours beaucoup de partis, mais il y en avait deux qui dominaient la scène, qui étaient des partis de gouvernement, qui avaient une partie importante de l'électorat derrière eux et qui se succédait assez régulièrement au pouvoir.
Avec la capacité de mobiliser des majorités et de pouvoir gouverner assez aisément à l'Assemblée.
C'était donc deux partis relativement modérés, une droite modérée et une gauche modérée, socialiste d'un côté et gaulliste de l'autre, enfin gaulliste ou droite modérée, héritier en bonne partie du gaullisme, mais héritier lointain.
Et le fait de cette bipolarisation explique aussi peut-être l'émergence du Front National à l'époque. C'est-à-dire que le côté protestataire, c'était un peu genre, on a eu les deux grands et ils n'ont pas fait grand-chose pour nous.
Voilà.
Et donc, on n'est pas content, on va taper du poing sur la table.
Donc, voilà, et lié à des questions émergentes dans les années 80, notamment, à partir des années 80, autour de la question de l'immigration.
Oui, du chômage de masse, du pouvoir d'achat, etc. Donc, effectivement, là, on est dans un moment électoral où il y a trois forces qui se répartissent plus ou moins sur l'échiquier.
C'est venu progressivement depuis 2017, c'est-à-dire que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a commencé à recomposer le paysage politique, puisqu'il a dominé largement sur les deux autres forces, et donc il avait une large majorité pour gouverner à l'Assemblée, donc... il a dominé la scène nationale jusqu'en 2022. Et à partir de 2022, il s'est affaibli. Emmanuel Macron a été assez largement réélu. Mais par contre, aux législatives, ça s'est un peu grippé. Et il n'a donc eu qu'une majorité relative. Mmh. Il lui manquait, on va dire de manière approximative, environ 50 sièges pour avoir une majorité...
confortable.
Oui, même une majorité à l'Assemblée. Et donc, et l'élection qu'on a connue cette année, qui n'était pas prévue, qui est liée à une dissolution impromptue, qui a été beaucoup commentée et critiquée, cette élection, elle est un peu ratée en ce sens que aujourd'hui il lui manque pas 50 députés, il lui en manque 100. Et donc, on a une montée des deux extrêmes, du Front National d'un côté et en nombre de députés de la gauche, oui.
Oui. En même temps, bon, c'était une manœuvre politique assez clairvoyante. Ça permettait de mettre tout le monde face à ses responsabilités. J'avoue que la mine des fêtes au soir du deuxième tour, quand le président a annoncé la dissolution et que tout le monde s'est précipité pour se demander comment ils allaient faire pour passer à l'étape suivante, tous ceux qui étaient venus pour dire le président n'a plus le pouvoir, il devrait dissoudre, il leur coupe l'herbe sous le pied. C'était assez inattendu, mais pas complètement idiot.
C'était très inattendu. C'était au soir de l'élection européenne.
C'est ça, oui.
Et donc, le président avait dit plusieurs fois pendant la campagne des européennes qu'il ne fallait pas tirer des conséquences nationales d'un vote européen. Et donc, c'était d'autant plus inattendu. Et le Premier ministre l'a appris la veille. Ouais. Donc, sa propre majorité... n'a pas aimé ce genre de choses et Gabriel Attal tout particulièrement n'a pas aimé. Ils sont en froid, on va dire.
C'est ça. Et puis le fait qu'il n'y ait pas, il n'y ait la possibilité pour le président de n'enchaîner que deux mandats. Oui. Donc là, tout le monde sait qu'il ne se représentera pas. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet de gens qui se verraient bien calife à la place du calife.
Oui, bien sûr, il y a. Il y a beaucoup de candidats potentiels. Il y en a probablement qui abandonneront, mais évidemment, il y en a qui essaieront. C'est toujours la même chose de ce point de vue. Beaucoup de gens se disent « j'aimerais bien me présenter et défendre mon programme ». Et en même temps, s'il y a trop de candidats d'une même tendance, c'est aller à l'échec.
Absolument.
Donc, tout pousse d'un côté... à se présenter et tout pousse en même temps à
réduire
le nombre de candidatures. Pour la gauche, tout particulièrement, si elle veut avoir une chance, une petite chance, la gauche politique a beaucoup baissé en France. Mmh. Les idées qu'elle porte n'ont pas spécialement baissé, mais par contre... Son poids électoral a beaucoup baissé. Et donc, elle est à 25%, en gros, un petit, moins d'un, plutôt un quart qu'un tiers hein, mmh. de l'électorat. Ce qui veut dire que...
Les votes exprimés.
Oui, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que pour l'emporter, c'est très difficile. Et donc, la première condition, c'est la candidature unique. On a dit beaucoup qu'il y avait deux gauches irréconciliables en France. Le NFP qui a été relancé après la NUPES pendant la campagne électorale.
Ils ont eu le mérite de trouver un meilleur nom. Oui,
d'accord. Mais par contre, c'est un accord électoral et on sent bien que les frictions sont très nombreuses.
C'est ça.
Donc, comment trouver un candidat unique pour 2027 ou peut-être avant, si Emmanuel Macron décidait de démissionner dans un contexte d'impossibilité de gouverner et n'arrivant pas à accepter d'être au fond, n'être plus le maître du pouvoir. Donc,
d'être l'inaugurateur des chrysanthèmes.
Voilà, et donc... normalement, en période de cohabitation, comme on a eu à trois reprises dans les décennies passées, le président n'exerce plus l'essentiel du pouvoir. C'est le Premier ministre qui le fait. Or là, dans l'interrègne, on va dire, si je peux me permettre cette expression, Macron a tout fait pour garder une partie du pouvoir. Et donc à trouver des gens à l'Assemblée qui lui soient pas trop défavorables, même s'ils sont sous le contrôle du Rassemblement national. Et donc cette situation est quand même très très compliquée, et il n'est pas certain que M. Barnier ne soit pas censuré dans les mois qui viennent.
C'est pour ça que cette première question sur montée des extrêmes et tripartition du paysage politique est intéressante, parce qu'on peut aussi se demander si Emmanuel Macron disparaissant du paysage politique puisqu'il ne peut pas se représenter, est-ce que cette force centriste, avec toutes les guillemets qui convient, va perdurer ou pas du tout ?
Oui, c'est tout à fait une question importante. Elle est déjà assez divisée entre le MoDem, le groupe, le MoDem sur sa gauche, le groupe central autour de Renaissance, et puis la droite du macronisme autour d'Édouard Philippe. Et donc, il n'est pas certain, en effet, que cette force centrale subsiste. Et en même temps, dans la mesure où les deux autres forces sont importantes, là aussi, l'unité de candidature
va être primordiale. Oui, ça, c'est certain. Donc la deuxième question que vous aborderez lundi 14 à 18h30 au Centre théologique de Mélan, à Mélan évidemment, c'est les compromis politiques sont-ils tabous en France ? J'avoue que quand j'ai lu le programme, j'ai un peu biché, parce que c'est vraiment... De temps en temps, je me dis, mais pourquoi on arrive quelque part en ayant des idées prédéfinies et en pensant que, puisque c'est quelqu'un de l'autre camp qui propose une idée, elle est forcément débile ? Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins discuter et débattre d'abord et ensuite se déterminer, pas à l'inverse ?
Oui, tout à fait. Que les partis politiques aient des programmes
c'est là-dessus
précis,
qu'ils sont élus
pour ça. Le problème, c'est une fois qu'on est élu...
Comment on gouverne exactement ?
Comment on gouverne et dans beaucoup de pays européens, le système électoral est différent, c'est un système proportionnel. Et dans un système proportionnel, il y a en principe pas beaucoup de primes à chaque parti. Disons que, le scrutin est assez juste. Le pourcentage de sièges et le pourcentage de voix sont assez proches. Et par contre, ça favorise une atomisation. Et donc, dans ce contexte d'atomisation, quand il y a une dizaine de partis dont le premier est à 15% et le dernier à 5 ou 6, évidemment, pour trouver une majorité, c'est compliqué. Mais c'est dans ces pays, on est un peu habitué à cette question, à ce problème. Et donc, on arrive à le gérer. Alors, c'est jamais facile, mais on sait que ça va être difficile. Donc, dès le lendemain de l'élection, on se met autour d'une table pour dire quel programme de gouvernement pour la législature qui vient, on met en place. Qu'est-ce que chacun accepte de concéder aux autres? Et au bout de quelques mois, on a un programme de législature qui est extrêmement précis, souvent extrêmement précis. Le document des Allemands, il y a un an à peu près, il faisait, je crois, quelque chose comme 180 pages. De mémoire, hein, je peux me tromper un petit peu, mais en tout cas, il était très long, très précis et très long. Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'anicroche entre les tendances. Mais,
ce qui est normal,
mais quand même, on ne va pas jusqu'à la rupture de la coalition parce qu'on s'est engagé et on respecte ses engagements. En France...
spécialement dans le contexte avec cette tripartie...
Voilà, on est... On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On pense que ne pas respecter son programme, c'est des compromissions. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour le compromis, on est contre la compromission. Mm-hmm. Et donc, on l'a entendu chez Jean-Luc Mélenchon dès le soir du second tour
des législatives,
où il a dit tout le programme, rien que le programme.
C'est ça, les soviets, rien que les soviets, toujours les soviets. Est reconnu.
Oui, c'est ce que on peut penser. Donc par rapport à cette réalité qui est partagée, qui est encore largement partagée, par beaucoup, beaucoup à gauche, au fond, la droite radicale, conduite par Marine Le Pen, qui veut montrer qu'il ne faut pas diaboliser son camp, elle a plutôt fait profil bas, acceptant de certains compromis, enfin a priori, disant qu'elle ne censurerait pas immédiatement un gouvernement
avant qu'il annonce son programme.
Droite et groupe centriste, groupe centriste au pluriel. Donc face à ce, donc en effet le compromis est un peu tabou, et donc si ça reste tabou,
ça va être compliqué.
Voilà, ça va être compliqué, et soit il y a la censure, soit de toute façon les forces politiques n'arrivent pas à gouverner, à faire des lois, et donc c'est l'immobilisme. C'est soit l'immobilisme, soit... Donc pour qu'on avance et que certains dossiers au moins avancent, il faut des compromis.
Il faut des bonnes volontés.
Voilà.
Et c'est pas là-dessus qu'on a été très fort en France, parce que même sous la 3e et la 4e République, on avait du mal, alors qu'il y avait plus de partis politiques qui étaient représentés à la Chambre, on avait du mal à constituer des majorités qui duraient longtemps.
Oui, voilà. Sous la 4e République, il y a eu en moyenne, en 12 ans, un gouvernement tous les 6 mois et demi.
C'est ça. Deux par année, histoire que...
Oui, voilà.
On est un peu d'élection de temps en temps, quoi.
Ah ben, ça donnait pas une élection.
Oui, oui, je... Des recompositions gouvernementales.
Il y a eu une élection en 40, 45 et 46. Là, il y a eu des élections législatives à deux ou trois reprises. Et puis ensuite, 47, 51, 56.
Et c'est vrai que donc, puisque les parlementaires français de toute histoire ont eu du mal à s'entendre les uns avec les autres, on n'est pas forcément très optimiste sur comment les choses vont évoluer, même si on espère que l'intérêt commun sera plus important que l'intérêt individuel de ceux qui voudraient se représenter.
Oui, oui, mais en effet,
Tout
le monde sait que ça va être difficile.
Oui,
quoi,
ça va être une période.
Et que, alors, il n'y a pas de possibilité de dissoudre pendant un an. Pendant un an, depuis la date du second tour. Alors, comme le second tour était le 7 ou le 8 juillet, ça veut dire que on peut pas redissoudre avant le 8 ou 9 juillet 2025. Sachant que c'est quand même difficile d'organiser une élection législative au 15 août. il faut le temps de la campagne, donc début août, c'est pas possible. Donc, ça reporterait des élections en septembre.
À la rentrée de 2025,
oui.
Donc, il va falloir que les gens qui ont envie de faire quelque chose se mettent autour d'une table et travaillent ensemble. Ce serait bien. Et alors, la troisième question que vous aborderez lundi 14 octobre à 18h30 au Centre théologique de Mélan dans le cadre du forum de l'événement, c'est « Les institutions sont-elles à revoir ?»
Oui, voilà. Donc, c'est aussi une question beaucoup débattue, pas seulement ces dernières semaines, mais...
Ah non, c'est un vieux...
Mais voilà, c'est un vieux...
Serpent de mer.
Vieux serpent de mer depuis au moins une...
Les années 80, je dirais.
Oui, peut-être un peu plus, mais alors c'est un serpent de mer dans la classe politique, beaucoup plus que dans l'opinion, parce que au fond, les questions institutionnelles, l'opinion publique s'y intéresse pas énormément. Ce qui est important pour beaucoup de Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'immigration, c'est la santé, c'est l'éducation.
C'est comment marchent les choses, pas...
Voilà, c'est pas les institutions, c'est très technique. Et donc, les effets d'un type d'institution plutôt qu'un autre, beaucoup n'en voient pas, ne les voient pas. Mais par contre, la classe politique peut s'y intéresser. Et il y a eu, dans la classe politique au sens large, un mouvement assez important, déjà depuis 20-30 ans, pour dire que il fallait viser une sixième république. C'est un thème qu'a beaucoup développé Jean-Luc Mélenchon, d'autres personnes un peu avant lui. Une sixième république, ça peut vouloir dire des choses très différentes. Si on va jusqu'au bout de ce qui était dans les idées de réforme de certains, il faudrait supprimer l'élection le Sénat, mais principalement l'élection du président au suffrage universel direct. Même si beaucoup de Français quand même sont relativement attachés, voilà, à cette élection, qui d'ailleurs mobilise quand même le plus fortement. Donc d'autres disent on peut pas supprimer cette élection au suffrage universel direct, mais il faut donner du pouvoir au Parlement, et donc donner du pouvoir au Parlement, ça veut dire que il faut que le Parlement fasse les lois sans être sous la pression de l'Élysée. Donc il faut une autonomie, il faut rompre les liens. Et il y a des techniques pour ça. Par exemple, aux États-Unis, le président a du pouvoir, mais il n'est pas maître du calendrier et des lois comme en France. Et donc, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de revoir le mode de scrutin, de venir à un scrutin proportionnel, puisque en France, on l'a peu expérimenté. On a une tradition, on va dire, du mode de scrutin majoritaire à deux tours, un peu comme les Anglais ont une tradition du mode de scrutin majoritaire à un tour. Alors que la plupart des autres pays en Europe ont des systèmes proportionnels.
Plus ou moins.
Plus ou moins, oui. Oui, plus ou moins.
C'est extrêmement technique d'un coup.
Oui.
C'est ça qui est intéressant d'ailleurs.
C'est extrêmement technique, oui. Plus ou moins. En Allemagne, le mode de scrutin est strictement proportionnel, mais avec beaucoup de subtilité, parce que chaque électeur a deux voix. Il vote d'une part sur une liste nationale pour élire une partie des députés à la proportionnelle. Mmh. Et puis, il y a une autre partie des députés qui est élue au scrutin de circonscription. Mais il y a un système de compensation. Tous ces élus au scrutin majoritaire ne sont pas forcément complètement élus, puisqu'il faut qu'on se débrouille pour que, au total, les élus soient conformes à l'électorat national. Et donc, c'est strictement proportionnaliste. Avec une limite, c'est qu'il y a un seuil de voix minimale à 5% pour avoir des élus. Ce qui veut dire que ça évite quand même une trop forte dispersion à l'Assemblée. Ça évite qu'il y ait des tendances qui aient 1, 2, 3 élus. Donc,
Et là, effectivement, si on part sur le débat de faut-il changer la Constitution en France, la partie extrêmement technique, comme vous êtes en train de l'expliquer, c'est-à-dire le mode de scrutin, le calendrier électoral, la prééminence de quel pouvoir législatif ou parlementaire, etc. etc. Et c'est un débat assez complexe à faire passer dans l'opinion, ce qui, quand même, va sans doute prendre du temps.
Tout à fait.
Si on se lance là-dedans.
Et d'autre part, c'est pas gagné d'avance, là non plus. Rien que sur le mode de scrutin, sans parler de réformes plus importantes, le mode de scrutin ne nécessite pas un changement de la Constitution. Ça, c'est assez important, parce que s'il fallait changer la Constitution, je crois que ça serait difficile d'y penser. Il faut l'accord du Sénat.
Ça va, oui.
Voilà, ça.
Il y a peu de chance.
Il y a peu de chance. Sauf à passer par le référendum. Donc, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Par contre, le mode de scrutin, une loi ordinaire permet de le changer. Mais même ça, pour avoir une loi ordinaire, moi, j'ai trouvé personnellement que ce qu'en a dit Michel Barnier dans son discours de politique générale la semaine dernière ne montre pas un enthousiasme fou pour changer le mode de scrutin.
Il y a peu de chance, oui. Hein?
Il a dit qu'on allait y réfléchir. Donc,
ça ne coûte rien.
Voilà, donc parfois c'est une manière d'enterrer une question.
Absolument.
Donc, y a des projets plus ou moins sur la table, hein. Je ne pense pas qu'on aille vers une proportionnelle intégrale. Au mieux, on va aller vers un scrutin mixte qui donnera une prime en nombre de députés au camp qui arrive en tête, comme c'est le cas déjà, par exemple, pour les élections municipales ou régionales. Mmh. Et qui ont des allures proportionnelles, mais avec des correctifs. Donc c'est des scrutins, ce qu'on appelle des scrutins mixtes.
Et qui donnent des résultats assez intéressants, d'ailleurs.
Oui. Donc c'est plutôt des bons systèmes. Il n'y a pas de système idéal, hein, de toute façon.
Ça saurait.
Mais il y a des systèmes probablement meilleurs que d'autres à une époque donnée, quoi. À un moment donné, dans une conjoncture donnée.
C'est vrai que le système date de 1958 et que le monde a un peu changé.
Oui, tout à fait.
Alors après, on n'est pas obligé de suivre tous les phénomènes de mode, mais effectivement, intéressant de se poser la question concernant le mode électoral.
Et dans une conjoncture où il y a 3 camps à peu près équivalents, si ça subsistait, c'est très difficile à trouver des majorités. Donc l'idée de casser un peu le mode de scrutin et de venir à un scrutin proportionnel, qui, avec l'espoir qu'il change un peu nos mentalités politiques et qu'il nous permette d'accepter davantage des compromis, Ça serait, par exemple, le compromis, les partis politiques sont habitués à savoir en faire à Bruxelles.
Eh oui.
Au Parlement européen,
forcément.
On fait en permanence des compromis. Alors, ce n'est pas sans problème, puisque le compromis fait aussi toujours un peu des mécontents.
Ouais.
Donc, de ce point de vue-là, évidemment, ce qu'acceptent les Verts à Bruxelles, dans le pacte vert, et ce qu'ils acceptent au plan national, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, c'est la complexité des choses qui est inévitable.
Mais il est vrai qu'on se retrouve dans une période, j'allais dire inédite, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais plus loin des habitudes de ces 35-40 dernières années au niveau électoral.
Oui.
Et c'est intéressant de se poser toutes ces questions et de voir comment les choses peuvent évoluer.
Oui, oui. Depuis 40 ans ou 50 ans, même 70, pratiquement, les députés n'ont plus, enfin, ne font plus. C'est plus eux qui mettent les projets de loi, les propositions de loi. C'est plus eux qui les construisent. C'est construit depuis la présidence de la République. Et eux, ils sont censés voter quelques amendements. Et puis voilà, donc les grandes directions, les grandes politiques publiques sont décidées par le président qui a une certaine légitimité pour ça, puisque il est élu au suffrage universel direct.
Forcément. Donc, est-ce qu'on parie sur un retour du parlementarisme en France ?
Ça va être difficile, mais ce n'est pas forcément complètement impossible. Voilà.
Oui, puis,
sur le long terme, on va dire.
Ce serait bien qu'il y ait un mélange des deux.
Oui, oui.
C'est une question de dosage.
Voilà.
Eh ben, je sens que vous allez avoir un beau programme ce lundi.
Oui, très beau programme. On va essayer de s'écouter.
Ben oui. C'est ce qui est devenu compliqué dans le monde actuel.
Oui, oui. Mais dans les forums, on y arrive en général pas trop mal. Mais là, le sujet est quand même très sensible.
Oui, puis il concerne tout le monde. Donc,
voilà, donc on verra.
Alors, on rappelle que c'est ouvert à tout le monde, que c'est l'entrée gratuite.
Oui, avec participation libre, on va dire.
Voilà. Que ça se tiendra ce lundi 14 octobre à 18h30 au Centre Théologique de Meylan qui vous accueille comme à chaque fois pour le forum de l'événement. Pour les gens qui n'y sont jamais allés, c'est très très beau. Il y a un parc, c'est magnifique, vraiment. On a l'impression d'être sorti de la ville.
Tout à fait.
Donc évidemment, c'est toujours agréable d'être dans un bel endroit. Que les deux intervenants sont Simon Perisco et Sonia
Persico.
Ouais, je suis dyslexique, hein, donc. Et Sonia Smerli.
Oui, tout à fait.
J'ai du premier coup. Et que donc le thème sera 2024, pourquoi ce blocage politique en France ? Point d'interrogation. Que les intervenants présentent les trois questions dont on vient de parler sur 5 minutes et qu'ensuite il y a interaction entre la salle et les intervenants, et qu'à la fin, il y aura aussi un débat pour déterminer quel sera le sujet du forum de l'événement qui se tiendra le 9 décembre.
Tout à fait.
Et que tout le monde peut voter.
Voilà.
À la proportionnelle Non.
On fait deux tours.
Ah vous voyez.
Alors oui, c'est un peu proportionnel. C'est un peu... C'est pas proportionnel, mais il y a pas de prime au vainqueur.
Hein. Oui, oui.
Enfin, si, son thème est choisi. Mais donc, dans un premier temps, c'est les gens qui font des propositions de thèmes. Il y en a en général entre 6 et 10, on va dire. On a un premier vote où chacun a deux voix et donc peut voter pour deux de ces thèmes. On compte on dénombre le nombre de voix de chaque thème. On ne garde que les deux premiers pour avoir un résultat net sur le choix du thème.
D'accord. Et c'est pas trop la foire d'empoigne ?
Non, les gens sont disciplinés.
Très bien.
On a plutôt un public habitué au compromis.
Hein. Il donne l'exemple.
Voilà.
Très bien. Monsieur Bresson, merci beaucoup.
Merci à vous.
Passez une excellente soirée et un excellent forum de l'événement ce lundi 14 octobre à 18h30 au Centre Théologique de Mélan. C'est hyper facile d'accès, on peut y aller en bus, on peut y aller à bicyclette, à pied. L'arrêt de tramway est pas très loin.
Voilà, l'arrêt de tramway B est à 10 minutes à pied derrière.
Oui.
10 petites minutes.
10 petites minutes, oui.
Voilà. Et sur l'annonce du forum ligne sur le site, il y a un plan en plus qu'on peut télécharger si on a besoin de repères géographiques.
On mettra toutes les informations sur le podcast de cette émission disponible sur le site de la radio campusgrenoble.org. Vous aurez les liens pour aller télécharger directement. Et ce sera aussi simple que ça. Merci beaucoup.
Merci.
Très bonne soirée. Et nous, on va finir cette apérophonie avec les Pills for Tomorrow qui joueront le 26 octobre. Ce sera un samedi à l'Empérage pour présenter leur indie tirant vers le psychédélique et le shoegaze. La première partie sera assurée également par un autre excellent groupe, les Scrapfellas, qui eux sortent enfin leur premier mini-album. Bande de feignants, vous aurez mis le temps qu'il faut. Moi, j'ai vu les deux groupes sur scène, je peux vous dire que c'est vraiment bien. Donc, voilà, c'est un conseil pour quelqu'un qui a testé. Testé et approuvé, on dira. Les Pills for Tomorrow, pour terminer, en concert samedi 26 octobre à l'Empérage à Grenoble. Merci beaucoup.
chez nous.